France Info.
Que se passe-t-il sous nos pieds, qu'on soit en ville, à la campagne, à la mer ou à la montagne? Le Louvre-Lens propose en ce moment une exposition intitulée « Monde souterrain, 20 000 lieues sous la terre ». 200 œuvres, des peintures, des sculptures, des installations, des livres, des films pour nous faire découvrir la mine, le métro, la grotte, ce qui est imaginé, ce qui est rêvé, ce qui fait peur aussi parfois. Bref, tout cela intrigue les élèves du lycée français San Diego aux États-Unis. Bonjour Arnaud Lemestre.
Bonjour.
Vous êtes géologue, responsable du service des sciences de la Terre du Palais de la Découverte. On commence avec une première question.
Bonjour, je m'appelle Emma et je voulais savoir comment est-ce que les scientifiques savent ce qu'il y a sous la Terre?
Alors, pour que les scientifiques puissent savoir ce qu'il y a sous la Terre, il faut des techniques relativement développées, puisqu'on ne peut pas avoir directement accès à ce qui est très profond. Alors, un exemple que je peux donner, c'est par exemple lorsqu'une maman attend son bébé, eh bien, au lieu d'ouvrir le ventre de la maman, évidemment, on va utiliser une technique qu'on appelle l'échographie, qui consiste à envoyer des vibrations à l'intérieur du ventre de la maman. Ces vibrations vont rebondir sur le bébé, sur ses organes, ce qui va donner une image, une espèce de photo du bébé. Eh bien, pour la Terre, on fait la même chose, sauf qu'on va utiliser les ondes sismiques, les vibrations sismiques des tremblements de terre, qui vont parcourir un trajet à l'intérieur du globe, rebondir sur les différentes couches de l'intérieur du globe, et ça permettra d'avoir une image de ce qu'il y a en profondeur. Et on pourra définir comme ça différentes couches. On appellera ça le noyau, la croûte, le manteau.
Voilà, quand vous dites en profondeur, aussi, c'est vraiment très, très, très profond.
Oui, c'est ça, très profond.
Et l'autre technique?
Alors, l'autre technique, ça consiste en une technique de laboratoire qui utilise des presses à diamants, enfin des enclumes à diamants, qui sont d'énormes presses, qui vont essayer de reconstituer les conditions de pression et de température qui sont très, très, très élevées à l'intérieur de la Terre pour essayer de comprendre quelles sont les roches et les minéraux qui se forment en profondeur. Et grâce à ça, on aura la possibilité de connaître la composition des roches et leurs caractéristiques.
Mmh. Une nouvelle question avec toi, Mazen.
Comment explore-t-on le centre de la Terre?
Alors, si on n'a pas ces techniques, est-ce que vous y rendez parfois dans des sous-sols, dans des grottes, je ne sais pas?
Alors, il faut bien définir ce que c'est le centre de la Terre par rapport à l'exploration de surface, puisque on peut très bien, par exemple, explorer des grottes, mais les grottes, ce sont des environnements qui sont à très, très faible profondeur, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres maximum. Alors que le centre de la Terre, il est situé à 6400 kilomètres de profondeur et on ne peut pas y avoir accès directement. Et c'est pour ça qu'on utilise les techniques indiquées auparavant.
Alors, Ariel, à toi.
Quel désastre naturel se forme avec l'intérieur de la Terre?
Alors, il faut bien distinguer les phénomènes qui se passent vraiment au centre de la Terre, c'est-à-dire très profondément à plusieurs milliers de kilomètres, de ce qui se passe vers la surface. Et les tremblements de terre, ce sont des phénomènes qui se produisent plutôt près de la surface de la Terre, entre 0 et 100 kilomètres de profondeur, pour simplifier. Par contre, ce qui est très important, c'est que le centre de la Terre, il produit le champ magnétique, c'est-à-dire un champ de protection qui est fabriqué dans le noyau métallique. Et ce champ magnétique, il nous préserve de tout ce qui nous arrive de l'espace, les rayonnements cosmiques, les particules énergétiques très chargées, enfin tous les dangers qui viennent de l'espace, notamment les rayonnements et les particules qui sont déviées par ce champ magnétique. Donc en fait, c'est une espèce de capsule de protection. Et si ce champ magnétique disparaissait, eh bien, on se retrouverait bombardé par des choses pas très sympas qui nous viennent du Soleil et de l'univers.
Miles, à toi.
Pourquoi c'est chaud au centre de la Terre?
Alors, en effet, lorsqu'on descend en profondeur, il fait de plus en plus chaud jusqu'au centre de la Terre. Donc, au centre de la Terre, il fait à peu près 6000 degrés. Évidemment, on ne pourrait pas y vivre. Ce qui explique la chaleur interne du globe. Le premier phénomène, c'est que lorsque la Terre s'est formée, il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre s'est formée à partir d'un bombardement de poussières de petites météorites qui ont formé des morceaux plus gros de petites planètes. Donc, c'est une espèce d'agglomération, d'agglutination de petits corps rocheux. Ça fait grossir la planète. Et au fur et à mesure que la planète grossissait, il y a de plus en plus de météorites qui se sont abattues pour faire encore plus grossir la planète. Et ces météorites qui s'abattaient sur la Terre très très jeune, ça a pulvérisé le sol, ça a chauffé l'intérieur de la Terre en formation, ce qui fait que cette chaleur interne, elle est encore en partie conservée à l'intérieur du globe. Donc en fait, on a une partie de la chaleur interne qui correspond à une chaleur fossile, une chaleur qui date de cette période-là. Et la deuxième grande explication, c'est que l'intérieur de la Terre connaît dans la roche de ce qu'on appelle des désintégrations radioactives au niveau des minéraux des roches. Et cette désintégration, ça fabrique de l'énergie qui est émise à l'intérieur de la Terre sous forme de chaleur. Donc, il y a deux grandes explications à la chaleur interne. C'est d'une part le reste de la chaleur initiale formée lors de la formation de la planète. Et la deuxième, c'est la radioactivité des roches qui produit une source d'énergie sous forme de chaleur.
Et tout cela, on le sait grâce aux techniques que vous nous avez expliquées au début de l'interview?
Pas directement, parce qu'en fait, la connaissance de la Terre, l'origine de la Terre, hein, la formation, c'est plutôt des modèles physiques qui sont adaptés au fonctionnement de la Terre.
Raoul, une dernière question.
Quel minéraux y a-t-il en dessous de la Terre le plus rare ?
Alors déjà, il va falloir définir ce que c'est qu'un minéral, parce que ce n'est pas toujours très clair. Alors si vous voulez, pour simplifier, un minéral est contenu dans une roche comme une lettre est contenue dans un mot. Donc ça veut dire qu'un mot est constitué par plusieurs lettres qui s'associent et une roche est constituée par plusieurs minéraux différents. Alors les minéraux, par exemple, vous en connaissez peut-être, les minéraux les plus fréquents sur Terre, hein, c'est du quartz, du feldspath, des micas, et puis le diamant aussi est un minéral beaucoup plus rare. On connaît à peu près au moins 6000 minéraux différents sur Terre, donc il y en a vraiment énormément. Ces minéraux constituent les roches. Il y en a certains qui sont extrêmement nombreux, extrêmement fréquents à trouver, et puis d'autres qui sont beaucoup plus rares. Évidemment, il y aura beaucoup moins de diamants que de quartz dans la croûte terrestre.
Malheureusement. Arnaud Lemestre, j'ai une question. Comment vous expliquez-vous que ce qui se passe dans le centre de la Terre nous fascine toujours autant, nous les humains ?
Ce qui se passe, c'est que l'intérieur de la Terre, c'est un monde complètement inconnu qui revêt un mystère lié à la formation de la Terre, au mythe des origines, si vous voulez. En plus, c'est un endroit qui est extrêmement chaud, extrêmement sous pression. Il faut imaginer que si vous étiez au centre de la Terre, dans le noyau, vous connaîtriez une température de presque 6000 degrés et la pression, c'est-à-dire l'écrasement qui est présent dans ce noyau interne, dans ce noyau au centre de la Terre, correspondrait à 100 camions de 35 tonnes qui écraserait le bout de votre doigt au niveau de votre ongle. Donc ça veut dire que c'est extrêmement écrasé, extrêmement chaud, et ça rejoint un petit peu le mythe des enfers, hein, qui correspondent au grand mythe de l'humanité, si vous voulez.
Ils n'avaient pas tort, finalement, nos ancêtres, ceux qui ont imaginé tout ça.
Oui, mais c'est vrai qu'on est dans une mythologie quand même un petit peu différente de ce que la science peut nous apporter aujourd'hui.
Et pourquoi vous avez voulu vous y intéresser, vous, Arnaud Lemestre ?
Depuis tout petit, en fait, j'ai été intéressé par les phénomènes naturels, hein, à savoir comment fonctionnait la nature, comment on pouvait expliquer les grands phénomènes que l'on pouvait soit voir en surface, hein, comme le volcanisme, le tremblement de terre, soit les choses un petit peu plus cachées. Et quand c'est caché, notamment en profondeur, on a vraiment envie de comprendre un peu mieux. On essaie d'imaginer ce qui peut s'y trouver et essaie de mieux comprendre comment on peut expliquer ces choses qui sont cachées et invisibles à nos yeux.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes vos explications très claires, Arnaud Lemestre. Vous êtes géologue et responsable du service des sciences de la Terre du Palais de la Découverte. Merci aussi à Estelle Faure et à Marie Mougin.